Chapitre 13. Les Verseuil arrivèrent au manoir le mercredi de la dernière semaine que leurs hôtes passaient en Bretagne. Le baron, petit et blond, avait une allure distinguée, une physionomie expressive et douce. Ses goûts, les traits, l'agrément de son caractère, des opinions semblables en matière sociale et religieuse, lui avaient gagné l'amitié du marquis Orcella. Ginevra le trouva sympathique. Madame de Verseuil lui plut moins. Elle était fort aimable, cependant, calme, gracieuse, d'un charme piquant, bien qu'elle ne fût pas jolie. Dans sa toilette, elle s'attachait à réaliser le tout dernier cri de la mode en côtoyant habilement la trop grande laideur et le ridicule. C'était une femme intelligente, en ce sens qu'elle savait discuter pertinemment sur toutes les questions intellectuelles, politiques et autres. Mais elle se croyait très supérieure, presque infaillible. Lorsqu'elle avait donné son opinion, d'une voix tranquille et ferme, on sentait que tout était dit pour elle et que les idées d'autrui ne valaient pas la peine d'être discutées. Sous des allures calmes, sa vie était singulièrement agitée. En se promenant avec Silvio après le déjeuner, M. de Verseuil se laissa aller à lui faire des doléances à ce sujet. Quelle existence mènent les femmes d'aujourd'hui, mon cher? C'est effrayant. Suzanne est surchargée. Elle va au dispensaire, fait des conférences sur la protection de l'enfance, suit des cours de droit. Avec cela, il faut voir toutes les expositions, entendre toutes les pièces et lire tous les livres dont on parle. Elle aime les relations nouvelles et ceci nous amène à recevoir beaucoup, à dîner en ville presque chaque jour, à passer une partie de la nuit dans des salons surchauffés. Sans parler d'été, bridge, garden party et autres amusements de ce genre. Ma femme prétend que cette existence de condamnée au bagne est la seule possible pour elle. De fait, elle l'amène avec beaucoup d'aisance. Mais c'est effrayant, vous dis-je. » Il laissa échapper un léger rire ironique. D'une main distraite, il remit entre ses lèvres le cigare qu'il tenait et en tira quelques bouffées. Son visage était un peu contracté, presque durci. Le marquis Orcella lui jeta un coup d'œil de surprise discrète. Jacques de Verseuil lui avait paru jusqu'ici très épris de sa femme et jamais il n'avait eu contre elle, devant son ami du moins, une parole de blâme. Le baron devait se douter de l'étonnement que provoquait sa confidence car il ajouta aussitôt « Je vous surprends beaucoup, n'est-ce pas ? Que voulez-vous ? Quand on aime, on s'aveugle volontairement pendant un temps plus ou moins long. Et puis, on voit plus clair un jour. Les illusions tombent. On remarque moins les qualités de l'être cher et beaucoup plus ses défauts. Il arrive aussi qu'avec l'âge mûr, on aimerait un peu de calme, on souhaiterait jouir de son foyer. Mais celui-ci est déserté. Évidemment, je n'ai pas de très graves reproches à faire. Non, évidemment. » Il demeura silencieux pendant un court moment et acheva d'une voix assourdie. « J'ai beaucoup aimé Suzanne. J'ai cherché longtemps à m'aveugler sur elle. » Mais elle n'a toujours répondu qu'à demi à cet amour. C'est une femme charmante comme relation mondaine. Mais comme épouse, comme mère, il lui manque l'aptitude au dévouement, le goût de répandre la joie autour d'elle et toutes les petites vertus qui nous attachent, qui nous retiennent, nous autres hommes, après que se sont évanouies les illusions de l'amour. Silvio regarda son ami plus attentivement. « Verseuil, vous souffrez ? Je vous l'avoue, mon ami. » Le marquis Orcella étendit la main et serra longuement celle de M. de Verseuil. Ils continuèrent d'avancer en silence maintenant. Le vent leur jetait au visage son souffle rude et frais. Les chênes, dans le petit chemin creux qu'ils suivaient, étaient agités violemment et leurs feuilles mortes se détachaient, s'éparpillaient au loin en une danse éperdue. Silvio fit observer « Nous aurons une tempête cette nuit. » M. de Verseuil dit machinalement « C'est probable. » Il suivait une pensée et il la laissa échapper tout à coup. « Vous ne devez pas connaître cette souffrance-là, vous, Orcella. À première vue, on devine que la marquise est toute différente de Suzanne et d'autres. » Silvio dit avec calme « En effet, ma femme a toutes les vertus, petites et grandes, que peut demander le plus exigeant des époux. Heureux homme !» Un tressaillement agita Silvio. Il riposta avec une sorte d'irritation sourde. « Qu'est-ce que vous dites là? Me traiter d'heureux, moi, quand vous savez ce que j'ai souffert, ce que je souffre toujours ?» Monsieur de Verceuil l'enveloppa d'un regard étonné. « Ah, pardon, mon ami, mais je pensais... Donna Ginevra est si charmante que vous devez être consolé un peu, voyons. » Silvio dit froidement, « Je ne suis pas de ceux qui se consolent aussi facilement. » Le baron pensa, « Aussi facilement. Voilà 4 ans que l'autre est morte, et celle-ci est une femme délicieuse, certainement très supérieure à la pauvre Hélène, de toute façon. Aurait-il la sottise de ne pas l'aimer ? Mais non, c'est impossible, impossible. » Les Verceuil passaient la journée et la nuit au manoir. Le lendemain matin, leur automobile les emmena vers Quimperlé avec le marquis Orchel et sa femme, qui avaient accepté d'être les hôtes du château de Grenelac pour 48 heures. Ginevra se trouva là, au milieu d'inconnus, les parents de madame de Verceuil, ses frères, sœurs, cousins, qui lui firent un accueil fort aimable. La jeunesse et même l'âge mûr accusaient des goûts sportifs très prononcés. Ces goûts, Ginevra les avait déjà rencontrés dans la société aristocratique de son pays. Elle s'en étonnait un peu, ayant reçu une éducation tout autre. Silvio, lui, montait à cheval, conduisait volontiers une automobile, jouait passablement au tennis, au golf, même au polo, dès que l'occasion s'en présentait. Mais il était loin d'être fanatique de tous ces sports, et, sauf pour le tennis, il n'avait jamais témoigné le désir que sa femme s'y adonnât. Aussi, Ginevra se trouvait-elle un peu dépaysée à Grenelac, dans l'agitation perpétuelle, entraînant du matin au soir cette jeunesse active, qui se piquait d'être avant tout physiquement bien musclée et moralement très pratique. Silvio et Ginevra regagnèrent le manoir dans leur automobile par un matin brumeux. Le chauffeur avait reçu l'ordre de longer la côte. Sur la demande de sa femme, Silvio renvoya la voiture à quelques kilomètres avant le logis et tous deux continuèrent la route à pied. À droite s'étendait la lande que les bruyères qui commençaient à se faner coloraient de rose et de roux. À gauche, la mer s'agitait en une houle immense qui se perdait dans l'horizon voilé. Elle descendait et des rocs noyés se découvraient lentement, des algues ruisselantes apparaissaient, laissant traîner sur le sable ou la roche leurs lacets gélatineux. Une voile rouge se tendait, dans la brume, au-dessus d'une barque fortement balancée. Le grand air du large arrivait sans obstacle jusqu'au sentier où marchaient les deux époux, car la baie n'était pas atteinte encore, et la mer apparaissait ici dans toute sa beauté puissante. Ginevra avançait d'un pas alerte. Elle était heureuse de se retrouver chez elle et de revoir bientôt Tchéka. D'une main, elle retenait son grand voile blanc que le vent faisait flotter. De l'autre, elle s'appuyait au bras que son mari lui avait offert tout à l'heure à un passage difficile et qu'elle n'avait pas quitté. Ils se taisaient tous deux. Puis Silvio demanda « Vous ne m'avez pas donné votre impression sur madame de Verceuil, Ginevra ?» Elle leva les yeux vers le regard interrogateur et sourit avec un peu d'embarras. « Mais elle est très aimable et elle reçoit de façon infiniment gracieuse. »« C'est tout. Elle est intelligente aussi, elle cause bien. »« Mais elle ne vous plaît pas ?» Elle avoua. « Non, pas beaucoup. »« Pourquoi ?»« Je ne sais trop. Elle me semble très étrangère d'idées, de sentiments, de goûts. » Cette impression n'a aucun rapport avec sa nationalité. Je l'ai ressentie toute semblable près de la comtesse Trésine, par exemple, ou de Teresa Alnuzzi. Oui, vous n'êtes pas de la même race morale. Son âme est très inférieure à la vôtre. Oh, je ne veux pas dire cela. Mais moi, je le dis. Jusqu'ici, j'avais beaucoup d'illusions sur madame de Verceuil. Mais quelqu'un m'a ouvert les yeux. Son mari, tenez. Ginevra répéta avec surprise « Son mari ?»« Oui, il l'aimait beaucoup, mais maintenant, il la voit telle qu'elle est et il est déçu, malheureux, parce qu'il voudrait un foyer paisible d'où la gardienne ne serait pas toujours absente. J'ai compris, en effet, qu'elle avait une vie très occupée au dehors. Une vie qui fatiguerait un homme robuste et que mènent intrépidement et que mènent intrépidement des jeunes femmes délicates qui souvent reculent devant les devoirs de la maternité. Ce pauvre Verseuil s'est longtemps leurré, mais il lui faut bien se rendre à l'évidence, sa femme n'a rien des vertus familiales et s'occupera plus volontiers de réformer la famille en général que de conserver l'unité de sa famille, de cette petite fraction d'humanité dont Dieu l'a faite la dépositaire responsable. » Il se tut et ils marchèrent de nouveau en silence. Silvio, contre son bras, sentait la pression douce de la main dégantée. Le voile de Ginevra, échappé aux doigts distraits de la jeune femme, frôlait sans cesse sa joue. Des pensées qu'il avait toujours repoussées jusqu'ici s'insinuaient en lui, plus claires, plus puissantes. Hélène n'avait-elle pas une âme semblable à celle de Suzanne de Verseuil ? Une de ces âmes médiocres que la vie n'améliore pas, qui dédaignent les petites vertus et n'atteignent jamais aux grandes, n'aurait-elle pas, elle aussi, délaissé le foyer pour le monde et pour des occupations, des devoirs, à côté du devoir ? Il eut un sursaut intérieur. Pauvre Hélène, pauvre petite Hélène, comment la jugeait-il ainsi ? Elle était si tendre, si charmante. Il aurait transformé, elle serait devenue une femme sérieuse, dévouée, de bon sens, comme Ginevra. Et si elle n'avait pas changé ? Si, tel que Jacques de Verseuil, son mari avait connu la déception de se sentir moralement seul près de celle que sa raison voyait telle qu'elle était après le premier aveuglement de l'amour. Il eut un léger frisson. Cette souffrance, il se l'imaginait et il la trouvait atroce. Était-il possible qu'il eût pu tomber ainsi d'un tel rêve d'amour ? Ah, en ce cas, il remerciait Dieu de lui avoir enlevé Hélène avant qu'il la connût ainsi. Et, aussitôt, il songea avec stupéfaction. « Comment ai-je cette pensée ? Il y a quelques mois, jamais elle ne me serait venue à l'esprit, jamais. Qu'est-ce donc ? Pourquoi ?» Il avançait machinalement, dans le vent, dans le jour gris. Ginevra s'appuyait doucement à son bras, et elle aussi restait silencieuse, le regard attaché sur l'horizon de brume. Silvio détournait un peu la tête pour ne pas avoir la tentation de la regarder, de l'admirer. Car elle était si jolie quand la brise violente rosait l'ambre clair et si délicatement satinée de son teint, avivait le rouge humide des lèvres, augmentait la flamme de vie dans ses beaux yeux dont il ne pouvait rencontrer sans trouble le regard profond et charmeur. Ah, s'il avait pu, comme il aurait aimé cette femme dont la beauté physique était si admirablement complétée par une âme pure, dévouée, prête pour tous les devoirs, pour tous les humbles héroïsmes de chaque jour. Mais avant elle, Hélène avait passé dans sa vie, elle avait pris tout son amour, à jamais, à jamais. Il eut un léger frémissement. Jusqu'à ces derniers mois, il avait rempli toute la promesse ardente murmurée à l'oreille de la morte dans la violence de son désespoir. Mais ensuite, une autre image de femme ne se substituait-elle pas à celle d'Hélène dans sa pensée, dans son cœur ? Il luttait, il voulait demeurer fidèle, il se révoltait contre ses doutes sur la valeur morale de la jeune défunte, sur la continuité du bonheur qu'il eût éprouvé près d'elle. Oui, mais tout cela, cette lutte, cette souffrance, ces doutes, et le seul fait de se représenter les défauts, les imperfections d'Hélène, n'était-ce pas un signe que l'idole n'était plus considérée avec des yeux aveugles et que, pour être ainsi discutée, elle était déjà moins aimée ? Il protesta en lui-même « Non, non !» et il se raidit pour rester impassible tout à l'heure quand il reverrait, tourné vers lui, ses grands yeux couleur d'eau ensoleillée qui avaient l'insolent pouvoir de lui faire oublier ceux d'Hélène, de la bien-aimée, toujours vivante dans sa pensée.